à peu près vers le kilomètre 265 en venant de Source-Seine, près de Dijon, si l'on parcourt la route qui va de Samoa à Fontaine-le-Port, qui est distant de 9-10 km, on voit apparaître un monde de villas. Et c'est ce monde dans lequel je voudrais vous promener un peu aujourd'hui. Alors, c'est un monde tout à fait étonnant. On voit des châteaux de genre bernois, avec des sortes de tours en forme de phallus coiffés de tuiles bourguignonnes. On voit des maisons à colombages, on voit des pavillons de meulière. On part de 1880 et puis on arrive à 1970-2000 avec de somptueuses maisons préfabriquées de style gaullisme immobilier, pompidolien de la rocade de Vercingétorix, où on entrevoit entre les haies de tuyas épouvantables des nains de jardin gigantesques en marbre aux yeux incrustés de pierreries. Et on y arrive en passant entre-temps par ce qu'on appelait les affolantes du bord de Seine, c'est-à-dire toutes ces villas art déco où on imagine qu'on pourrait très bien commettre un crime bourgeois fondé principalement sur l'adultère et où Hercule Poirot, en costume trois pièces bleu clair, écraserait mélancoliquement dans l'allée sablée une cigarette égyptienne ou turque à bout doré. Tout ça, c'est quand même l'apothéose du kitsch. Et pourtant, il règne sur les bords de la Seine, ici, une sorte de calme et de sérénité tout à fait surprenant. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le très grand écrivain, trop oublié aujourd'hui que fut Arthur Koestler, est venu s'y établir après la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, Arthur Koestler revient d'Angleterre où il vivait depuis 1940. Le Royaume-Uni est devenu, écrit-il, une terre de vertu et de morosité, et il décide donc de venir en France. Alors, venant en France, on constate que Koestler n'est pas rancunier. Il a fait dans La Lie de la Terre un récit absolument accablant de ses aventures de début de la guerre, parce qu'il avait rejoint la France pour lutter avec elle, c'était un juif hongrois, et surpris par l'armistice, il s'est vu interné au camp du Vernet dans des conditions ignobles, exposé à la xénophobie administrative, hélas courante, d'un pays qui très souvent n'aime pas ceux qu'il aime, et qui finira d'ailleurs, en vertu d'une clause déshonorante de la convention d'armistice, par livrer au Reich les réfugiés anti-nazis. Il est libéré grâce à un concours de circonstances et il veut continuer la lutte. Il s'engage à la Légion étrangère avant d'en déserter pour rejoindre Londres quand il lui apparaît assez clairement qu'en fait on le laissera moisir au Fort Saint-Jean. Et pourtant, après avoir combattu contre vents et marées, c'est en France qu'il choisit de revenir en 1945. Et avec les droits de son livre, Le Zéro et l'Infini, que tout le monde connaît, il achète à Fontaine-le-Port, ici, là où nous sommes, une villa sur les hauteurs qu'il baptise Verterive. Et c'est là qu'il est rejoint à nouveau par la bassesse française. Il s'installe à Verterive au moment du procès Kravchenko, dont les débats, même s'ils sont refroidis par le temps, présentent un saisissant bestiaire de la lâcheté. Kravchenko était un Russe qui était en mission officielle aux États-Unis en 1943 et qui avait décidé d'y demander l'asile politique en publiant « J'ai choisi la liberté », tableau réaliste du système soviétique. À la parution de la traduction française, la presse communiste prend feu, les lettres françaises de Wurmser et l'ensemble des titres affiliés au parti communiste. Il y a des gens, disait Orwell, comme les végétariens et les communistes avec qui il est impossible de discuter. Qualifié de traître, de menteur, d'agent payé de la CIA, comme plus tard Simon Leys le sera dans des articles publiés dans Le Monde, Kravchenko poursuit en justice ses diffamateurs. Il est défendu par le grand avocat Georges Izard, qui dit, en stigmatisant les dévots de Staline, « Notre droit français leur concède une liberté qu'ils entendent nous refuser, soit, mais ils ne leur accordent pas la faculté de substituer dès à présent à nos lois une oppression de fait, une violence réelle, qui rendent fallacieux les principes les plus sacrés de notre constitution et de nos codes. » Tout ça est bien joli, mais tout ce que Paris compte d'intelligence notable et établie défile pour accabler Kravchenko et ses défenseurs sous des flots de haine. Vercors, Cassou, Joliot-Curie, Pierre Cotte, Simone de Beauvoir qui voit à Kravchenko, je cite, « une belle figure de traître ». Prudent, les temps modernes résument le procès d'une phrase encore plus accablante que la phrase de Simone de Beauvoir « on ne sait pas au juste ce qui se passe en URSS ». Et Esprit, la revue du personnalisme chrétien, adopte une position lamentable que résume Emmanuel Mounier, je cite, « quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, nous ne questeleriserons pas ». La défense de Kravchenko ne parvient à faire témoigner en sa faveur aucune personnalité du monde des lettres et seuls se présentent des anonymes, des réfugiés russes ou ukrainiens racontant leurs pauvres expériences de la terreur et des prisons staliniennes. Et le 23 février 1949, Margaret Buber-Neumann, qui décrit son enfermement de 2 années dans le camp de concentration sibérien de Karaganda, dont la superficie est à l'époque le double de celle du Danemark. Margaret Buber-Neumann était l'une des premières visiteuses d'Arthur Koestler à Verterive et il avait été frappé par l'effarante simplicité de son témoignage. De Verterive, Koestler se propose avec Eurwell de créer une organisation de défense des droits de l'homme. Il vit dans l'inquiétude, frappé de la passivité occidentale et hanté par le souvenir des capitulations de l'avant-guerre. Le neutralisme, à l'époque prôné par Le Monde, Combat ou L'Observateur, lui paraît presque plus blâmable que l'engagement pro-soviétique. Au temps de la Lie de la Terre, il avait écrit cette phrase émouvante et terrible. Nos sentiments envers la Russie étaient ceux d'un homme qui a divorcé d'avec une femme très aimée, il la hait, et pourtant c'est encore une sorte de consolation pour lui de savoir qu'elle est là, sur la même planète, jeune et vivante, mais maintenant elle était morte. Aucune mort n'est aussi triste et aussi définitive que la mort d'une illusion. On ne souffre pas tout de suite après avoir reçu un coup, mais on sait que la souffrance va commencer. Tout cela est bel et bon, mais pendant qu'il vit à Verterive, qu'il suit le projet Kravchenko, qu'il a des correspondances, qu'il s'efforce de faire ce qu'il peut pour les libertés, les chevaliers de l'inhumain et de la bassesse ne désarment pas. Jean Canapa publie contre lui un livre qui s'appelle « Le traître et le prolétaire » ou « L'entreprise Kessler et compagnie » où affleurent à chaque page la xénophobie et l'antisémitisme. En août 50, l'hebdomadaire du parti, qui s'appelle « Action », décrit Verterive, là où nous sommes, comme le quartier général d'un état-major de guerre froide où l'on entraîne des milices armées clandestines appelées à faire régner la terreur sur la France. Je rappelle que Kessler vit à l'intérieur tout seul avec une de ses amies. L'Humanité Dimanche publie une carte de l'endroit où la villa est marquée d'une flèche en invitant les militants à s'y rendre et à la détruire. C'était l'esprit de ce temps. Au moment de la mort de Gide, les mêmes feuilles communistes avaient stigmatisé, je cite, « le fasciste pédéraste ». Je cite encore, « le plus parfait poète de la décomposition de l'homme, le cadavre qui vient de mourir ». En 1950, probablement fatigué par toute cette agitation, Kessler quitte la France à jamais pour le Berlin du blocus, puis pour les États-Unis, et il se fixe définitivement en Angleterre, dont il acquerra la nationalité en 1953. Il y lance une campagne pour l'abolition de la peine de mort, reprend la plume pour stigmatiser l'écrasement de la Hongrie, et s'enfonce dans la nuit, atteint à la fois de leucémie et de la maladie de Parkinson. Il se suicidera en 1983 en compagnie d'une de ses étudiantes qu'il avait connue à l'époque de Verterive et qui est venue très souvent ici, là où nous sommes, qui s'appelait Cynthia Jeffries, qui était devenue sa femme en 1965. On retrouvera près des deux corps un billet d'adieu, celui de Kessler. « Je souhaite que mes amis sachent que je quitte leur compagnie l'esprit en paix, avec un timide espoir en une vie dépersonnalisée au-delà des confins de l'espace, du temps et de la matière, et au-delà des limites de notre compréhension. Ce sentiment océanique m'a souvent soutenu dans les moments difficiles, et il en est ainsi au moment où j'écris ces lignes. » À ces mots, Cynthia Jeffries avait ajouté une lettre, écrite par elle, « J'aurais aimé terminer le récit de ma collaboration avec Arthur, qui a débuté quand nos chemins se sont croisés en 1949, mais malgré des ressources intérieures certaines, je ne peux pas vivre sans lui. » Elle n'était atteinte d'aucun mal, et ceux qui les découvrirent racontèrent que rien n'avait altéré la jeunesse de ses traits. Depuis longtemps, Kessler était envahi par le pessimisme d'un homme qui s'était habitué à chercher loin dans le passé les origines des drames de son temps et des siens propres. Une vie d'exil, l'antisémitisme, les prisons de Franco, la haine des tenants d'une hydre totalitaire toujours renaissante. Le sentiment océanique que j'ai cité tout à l'heure et dont il parle dans sa lettre d'adieu, il l'avait éprouvé en attendant son exécution dans les geôles franquistes, pendant la guerre d'Espagne. Il y faisait entrer quelque chose de la présence de Dieu, un Dieu sur lequel il ne mettait pas de nom et qu'il ne se souciait pas de définir. Il écrivait « Nous avons accepté la finalité de la mort personnelle. Par cette abdication, nous avons rompu nos liens avec l'infini. Nous nous sommes isolés de l'univers, ou si vous voulez, de Dieu. » Voilà, nous sommes à Verterive. Les militants staliniens ne sont finalement pas venus dévaster ce qu'Action appelait un QG terroriste. Mais nous y sommes, Vincent et moi, pour rendre hommage à l'une des grandes intelligences et l'une des plus courageuses du dernier siècle.